Bonjour à tous, vous allez bien ce matin?
Oui.
Et à toi, Radu, moi aussi ça va bien, il fait chaud. On salue nos frères et sœurs Navez qui sont partis à un mariage, on salue Luc et Elise qui sont partis dans la famille. Et voilà, ça sent un peu les vacances, on est un petit peu moins nombreux, mais quand même on est là. Et surtout Jésus est avec nous, hein. C'est vrai, c'est vrai. Sylvain dirait aux plantes vertes sont magnifiques, que Jésus est avec vous. Ça, c'est Suisse. Bien, en parlant de la Suisse, vous êtes au courant qu'il y a quelque temps, nous avons perdu une sœur qui s'appelle Christine Canlelou. Et nous avions été la visiter une semaine avant son départ, Michaud et moi, en Suisse. Mais nous la connaissions sous le nom de Sephora. Nous l'avons connue dans les années 70. Elle et son mari, qui s'appelle Roger, mais qu'on appelait Moïse à l'époque. Et elle chantait très bien, elle avait une belle voix. Et elle avait fait un disque. Et puis, hier, avec Stéphane, on a essayé de mettre au point une de ses chansons que j'aimais beaucoup, enfin, que nous aimions tous beaucoup hein, dans la communauté, ceux qui la connaissaient surtout. Et je vais essayer de vous la chanter parce que chanter derrière Sephora, c'est pas simple parce qu'elle avait une voix, c'était vraiment extraordinaire. Donc allons-y et excusez-nous si c'est pas tout à fait parfait. Vas-y Stéphane. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons prier Jésus et puis on va aller directement dans la parole de Dieu. Apocalypse 1, versets 8 à 9. Merci Stéphane pour cet accompagnement au piano. C'était. On a fait ça hier après-midi, on était tout contents. Apocalypse chapitre 1, versets 8 et 9. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île de appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Amen. On s'arrête là. quand on dit ça, on est impressionné. Moi, je suis impressionné parce que là, Jésus dit clairement qu'il est Dieu. Clairement, il dit qu'il est Dieu, qu'il est l'Éternel, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est l'Alpha, l'Oméga, l'Absolu. Il est Dieu. Il ne dit pas « Je suis un des Éternels, un des trois ». Il ne dit pas ça, il dit pas « Je suis un des Tout-Puissants ». À côté de moi, il y a le Père et il y a le Saint-Esprit. Non, non, il dit qu'il est le Tout-Puissant. Il dit qu'il est, et il est le seul et unique Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
De toute éternité, il est Dieu. Et Jésus est venu se manifester en tant que Dieu dans sa création, puis il est venu se manifester sur la terre en prenant une forme humaine. Il faut bien comprendre toutes ces choses. Ce sont des étapes dans le temps et dans la création. Il est le seul adorable. Vous savez que le mot Dieu signifie objet d'adoration. Il est le seul adorable, le seul Dieu. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. D'abord, en dehors de lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Que Dieu bénisse ce que je vais vous dire ce matin, parce que ce n'est pas facile à avaler. Ce que je vais vous dire ce matin ne va pas être facile à avaler. Tout ce qui existe est une manifestation de ce qu'il est. Puisqu'il a tout créé, tout ce qui est sorti de lui. Il n'y a pas quelque chose qui est apparu sans que ce soit lui qui l'ait fait. Et nous sommes partis de lui. Et comme je vous le disais vendredi passé, depuis que son sang divin a touché la terre, eh bien, il a sanctifié pour lui chaque cellule de la création. Il l'a sanctifié parce que ça avait été maudit. Toute la création avait été sous cette malédiction à cause du péché dans le jardin d'Éden. Mais quand le sang de Jésus-Christ, qui est un sang divin, a touché la terre, toutes les cellules ont été sanctifiées. Ça ne veut pas dire que tout est saint. Ça ne veut pas dire que tout est pur. Pas du tout. Cela signifie que tout est pur pour nous qui sommes purs. Ça veut dire que tout est pur par nous qui sommes purs. Si nous déclarons une chose pure, elle est pure. On peut lire ça dans Tite, chapitre 1, verset 15, mais je pense que vous connaissez le texte. Vous pourrez le lire chez vous, Tite 1, 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout. Mais aussi, il y a des choses qui sont inutiles. Il y a des choses qui sont à détruire. Mais nous avons la connaissance du bien et du mal depuis Adam et Ève. Donc nous savons très bien ce qui doit être séparé. Et je vais venir là-dessus tout à l'heure. Tout est pur pour ceux qui sont purs, car nous sanctifions et purifions ce pourquoi nous prions. La Bible nous dit dans 1 Timothée 4:4, ça je vais le lire, 1 Timothée 4:4. Tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Alors, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais c'est rendu saint par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus a versé son sang a touché la terre, mais c'est par notre prière que cela est rendu saint. C'est-à-dire que nous avons notre part à accomplir. Par la foi. Regardez quand Dieu dit que c'est impur, le porc c'est impur. Et puis après, il dit, non, maintenant ne dis pas que c'est impur si je dis que c'est pur. Dis comme moi. Vous comprenez? Donc nous avons à déclarer la pureté des choses. Je vous disais l'autre jour, quand vous prenez le pain et le vin, c'est donc la vie de Jésus-Christ, c'est le corps de Christ. Mais si vous n'avez pas de pain et pas de vin, pour prendre le pain et le vin, c'est un petit peu embêtant. Mais ça ne l'est pas vraiment, parce que n'importe quel élément qui est sur la terre, et il n'y a rien d'autre que ce qu'on connaît sur la terre, eh bien, cela a été sanctifié par la parole, c'est-à-dire par le sang de Jésus-Christ, et par notre prière. Et vous pouvez prendre n'importe quel élément, c'est pourquoi ça ne me choque plus, ça m'a choqué un temps, que les Américains et les Africains ne prennent pas du vin pour la Sainte Cène. Je ne sais pas, Jésus a dit du vin, pourquoi ils désobéissent? Et les Mormons, pourquoi ils prennent de l'eau? Ça me choquait. Mais ça ne me choque plus parce que maintenant j'ai compris cette chose, c'est que tout est sanctifié, tout est pur et tout est valable si, par la parole et par notre prière. Nous sanctifions et purifions tout ce pourquoi nous prions. Tout ce que Dieu a créé est bon et tout est rendu saint par la parole de Dieu, par Jésus, par son sang et par la prière. C'est ce qu'on vient de lire dans donc 1 Timothée 4:4. Parce que c'est à nous de gérer ça maintenant. C'est à nous de gérer ça. Comme nous étions chargés de le faire quand nous étions dans le jardin d'Éden, on était chargés de gérer tout. En Éden, Adam et Ève auraient dû maudire le serpent qui venait dire quelque chose de contraire à ce que Dieu avait dit. Ils auraient dû le rejeter, le maudire. Ne pas reconnaître son autorité, ne pas reconnaître pour vrai ce qu'il disait. Ils auraient dû le rejeter et ils ne l'ont pas fait. Eh bien, c'est à nous maintenant que revient ce devoir et cet honneur. C'est ce pouvoir, c'est de rejeter le serpent. Adam, c'était le premier Adam, mais il ne savait pas qu'il y en aura un deuxième après. Hein? Adam était le premier Adam et Ève était la première Ève. Ils sont morts par leur faute. Jésus est le second Adam, nous dit la Bible, et il est mort parce que il a voulu nous racheter. Il a voulu racheter Ève. Parce que c'est Ève qui a commencé. Il a voulu racheter sa deuxième Ève, il a voulu racheter sa communauté, son église, son épouse. C'est ce que nous sommes la deuxième Ève. Jean a vu cela, et il était à Patmos, et il a vu l'univers qui était sous la malédiction, il l'a vu s'effondrer, il l'a vu s'écrouler, et il a vu cela rouler comme un vieux manteau qu'on jette, et il a vu naître un autre univers. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Jésus-Christ, le nouvel Adam, il est les prémices de la nouvelle création, de cette nouvelle création. Et son épouse, la communauté, l'Église, est héritière de son époux, mort, mais ressuscité. Voilà pourquoi nous parlons de testament. Et aujourd'hui, toute la création, nous dit la Bible, soupire après quoi? Après la manifestation des fils de Dieu. Elle soupire, la création, après notre manifestation. Elle attend que nous nous manifestions, pas que nous subissions comme les gens de ce monde, mais que nous prenions notre position de gérant et de dominateur sur cette terre. Toute la création soupire après cela. La création soupire à ce que nous appelons pur, ce qui est pur, et que nous rejetions le serpent et toute sa compagnie. Elle attend que nous nous manifestions. Alors, c'est pas d'aller au culte, poser son derrière dans une église, de lever les bras au ciel et de dire Alléluia. C'est pas comme ça, qu'on manifeste l'autorité. C'est une partie, c'est la louange, c'est une bonne chose, mais ça n'est pas suffisant. La première Ève, elle a abandonné son héritage, son pouvoir, et la deuxième Ève, elle prend son rôle au sérieux, elle doit prendre son rôle au sérieux. Si elle ne prend pas son rôle au sérieux, eh bien elle dort. Elle ronfle, bourgeoise, hein. La deuxième Ève, elle prend son rôle au sérieux, elle sépare le bien du mal qu'elle connaît maintenant. Ève, elle ne connaissait qu'une chose, c'est qu'il ne fallait pas faire ça. Elle l'a fait. Maintenant, nous avons acquis la connaissance du bien et du mal. Connaissant le bien et le mal, nous sommes dans la capacité de dire non et de prendre autorité et de bloquer ce qui doit être bloqué et de débloquer ce qui doit être débloqué, de sanctifier ce qui doit l'être, de purifier ce qui doit l'être et de maudire ce qui doit l'être. Aujourd'hui, l'épouse, elle condamne le serpent ancien. Par ses œuvres, par ses paroles, c'est par la parole de votre témoignage que vous êtes vainqueur. Et nous ne condamnons pas que le serpent ancien, mais tous ces petits, tous ceux qu'il a engendrés. Comment ? En disant ce que Dieu dit à Abraham. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham et à ses descendants ? Il dit, je maudirai ceux qui te maudissent et je bénirai ceux qui te bénissent. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous ne maudissons pas, mais nous disons à Dieu que ta volonté soit faite. Et sa volonté, c'est de maudire clairement ce qui doit être maudit et de bénir clairement ce qui doit être béni, ce qui est prédestiné au salut. Ok ? Combien de temps a duré la vision que Jean a eue à Patmos ? On ne sait pas, peut-être quelques secondes, hein. Dans l'esprit des choses, c'est différent. Peut-être quelques instants. En tout cas, ceux qui étaient là, celui, ils n'étaient pas complètement seuls dans l'île de Patmos. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien su, ils n'ont pas entendu. Jean a saisi la vision, il était saisi par la vision, qui était descendue d'en haut, qui est venue jusqu'à lui, et il a exprimé le plus clairement possible, avec les mots les plus simples, pour que nous puissions comprendre. Jean, il est dans sa vision, et il se tait. Il écoute, il regarde, de temps en temps il dit un petit mot, ou il fait un geste, il a voulu se mettre à genoux devant un ange, je dis non, non, non. Ça nous apprend beaucoup de choses. Et il attend que Dieu décide de sa parole et de son silence, de ce qu'il doit écrire ou ce qu'il ne doit pas écrire. Il a de quoi écrire, à un moment où Dieu lui dit non, là ça ne t'écrit pas, ça ne t'écrit pas. Vous avez vu ça? Alors il écrit afin que les prédestinés au salut sachent comme lui il sait. Mais pour pouvoir comprendre ce que lui a compris, il faut avoir le même esprit que lui. Et pour avoir le même esprit que lui, il faut avoir la même marche que lui. Verset 9. Moi, Yohanan, qui suis votre frère et compagnon dans ses souffrances, dans la royauté et la persévérance, j'ai été exilé à Patmos pour avoir annoncé le message de Dieu et pour avoir rendu témoignage de Yeshua. Ça, c'est la version de Stern. J'aime beaucoup cette version. En quelques mots, il présente sa situation, pas avec des espèces de fioritures sentimentales, poétiques, ou non, dans des termes très simples, très précis, il n'y a rien de trop, il n'y a rien de négligé, on comprend tout de suite ce qu'il veut dire. Oh, mais l'Apocalypse est compliqué. Non, si on regarde la signification des mots, ça n'est pas compliqué. Chacun de ces mots nous éclaire et nous apaise, nous les prédestinés au salut. Et nous ne devons pas ôter un de ces mots, ni en retrancher un. Évidemment, nous ne pouvons pas lire ni le grec, ni l'hébreu, alors que c'est en français. Et la langue française, bon, il y a des nuances et tout. Heureusement, on a plusieurs traductions de la Bible. Et puis maintenant, on peut, avec Online Bible aussi, aller chercher et trouver à l'infini, pour trouver le plus fin possible. Quand Jean écrit, « Moi, Jean, votre frère », le terme exact, vous savez ce que c'est ? Mais c'est moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le terme exact, c'est pas « moi, Jean, votre frère », c'est « moi, Jean, qui suis le semblable ». Moi, Jean, qui suis le semblable. Il n'est ni plus ni moins que nous. Il est le semblable. Mais aussi, il est comme ceux qui ont connu et qui ont aimer Jésus, il est semblable à Jésus, c'est-à-dire il est à sa ressemblance. Il est en train de nous dire que nous sommes revenus à sa ressemblance. Nous étions déchus, mais nous sommes revenus à la ressemblance de Jésus. Les mots le cachent, mais le révèlent à ceux qui doivent le comprendre. Moi, Jean, votre semblable à la ressemblance de Dieu, selon Genèse chapitre 5, verset 1, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, il le créa. Nous avons perdu cette ressemblance, nous étions plus qu'une caricature de Dieu, mais maintenant par Jésus-Christ, par son sang, qui est une véritable nourriture, nous sommes rétablis dans notre position et nous avons retrouvé notre ressemblance avec Dieu. Ça signifie, moi Jean, aussi ça signifie, moi Jean le différent du serpent ancien, moi Jean le différent de la semence du serpent. Moi Jean le racheté de la malédiction, moi Jean celui qui peut avoir accès à la royauté sur terre comme vous qui croyez aussi au nom de Jésus qui m'a recréé, qui nous a recréé à sa ressemblance. Nous avons accès au royaume, c'est-à-dire à la royauté. Là, il nous dit, nous sommes un, puisque nous sommes semblables, nous sommes un, nous sommes unis à Dieu, non seulement ici à Patmos, mais aussi dans le Lot, et partout, nous sommes un dans le monde entier. Qui est un? Tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, alors vous en avez qui ont plus ou moins compris les choses, mais ce sont quand même nos frères, ce sont quand même nos sœurs, et même s'ils sont un petit peu en arrière parce qu'ils n'ont pas saisi. Vous savez, beaucoup de gens disent, le diable a fait ci, le diable a fait ça, ou... Non, c'est pas la faute du diable, c'est la faute d'un manque de connaissance. Plus nous connaissons, plus nous avons la possibilité d'acquérir la victoire et de la manifester. Alors beaucoup de gens sont dans l'ignorance et donc vivent des choses avec une foi un peu timorée, c'est malheureux. Pour eux, c'est dommage. Voilà pourquoi nous faisons tous nos efforts pour les instruire. Nous sommes un, pas seulement localement dans la géographie, mais aussi dans le passé, dans le présent, dans le futur, nous sommes un, tout ça, ça fait... Il n'y a plus cette question de limitation, nous sommes un, nous sommes avec Dieu. Heureux ceux qui entendent ça, qui comprennent ça, qui lisent ça et qui gardent ça. Peu importe le siècle dans lequel vous vivez, vous êtes semblables à Dieu, des régnants. Notre frère Martin Luther, du temps de la Réforme, je me sens très un avec lui, bien que je ne sois pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Wesley, qui vivait un peu plus tard, je me sens très un avec lui, bien que je ne sois pas d'accord avec tout ce qu'il connaissait. Il n'avait pas la totalité, il n'avait pas compris tout. Je me sens très un avec les pentecôtistes, bien que je n'adhère pas à tout. Je me sens très un avec les mormons, mais bien que je n'adhère pas à tout non plus. Pourquoi? Parce que nous avons il y a des degrés de gloire, il y a des degrés de connaissance. Je me sens très un avec mon frère Blé. Il m'a apporté beaucoup ces derniers temps. Mais il y a des choses où je ne suis pas complètement d'accord. Peut-être c'est parce que je n'ai pas encore compris. Ou peut-être c'est parce qu'il y a des choses que j'ai compris qu'il n'a pas comprises. Mais l'important, c'est que nous sommes un en Jésus-Christ. Et ce que nous avons à faire, ce n'est pas chipoter sur des détails, mais c'est être la manifestation de Jésus-Christ sur cette terre pour détruire les œuvres du diable et non pas détruire l'Église. Des régnants. Moi, Jean, votre frère, votre semblable à Dieu, un dans la nouvelle Ève, un dans le nouvel Adam, je suis un dans l'Église, je suis un avec vous, et un parce que l'Église est en Christ, un avec Christ. Moi, je pars avec vous, il dit, aux tribulations. Ah oui, alors évidemment, voilà, les tribulations, on peut... C'est-à-dire aux épreuves morales. Le mot tribulation signifie, premièrement, épreuve morale. Alors, au-delà des tribulations causées par les incrédules, parce que ça, bon, ben voilà... Eh bien, il y a aussi des tribulations occasionnées par des faux frères, comme on trouve dans 2 Corinthiens 11, 26. L'apôtre Paul a souffert de la part de faux frères. C'était des gens qui s'étaient introduits dans l'Église, et puis ce qu'ils étaient n'avait pas été manifesté tout de suite. Vous savez, il y a des péchés, on ne voit pas tout de suite, donc pouf, ça ressort. Et il n'y a pas que ça. Notre travail intérieur, nos efforts spirituels, sont une épreuve morale. Quand on fait du sport, c'est une épreuve qu'on s'oblige à cette épreuve-là dans un but. Et c'est très positif. Eh bien, le fait de faire un travail intérieur sur nous-mêmes, c'est une épreuve, c'est très positif. Cela nous permet de tester si notre foi, elle est sincère, et si notre amour pour le Seigneur et pour son Église est vrai et durable. Donc, c'est une souffrance pour notre chair. Notre chair déteste ça. Elle préférait se dorer à côté de la piscine, ou même dedans. Aujourd'hui, bon, pas trop aujourd'hui. C'est notre robot qui est tombé en panne. Ça, c'est pour la petite anecdote. Et quand on écoutera la prédication, on se dira, ah oui, tu te rappelles, le robot était en panne. Alors oui, nous sommes semblables à Jean, oui. Notre épreuve morale, qu'est la persévérance en Jésus, c'est une épreuve morale. C'est exactement ce qui est imposé à tous nos frères partout dans le monde. On trouve ça dans 1 Pierre 5, 7 à 11. Je l'ai noté là, 1 Pierre 5, 7 à 11. Il dit, Pierre dit, « Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » On a tous des soucis. Mais déchargeons-nous sur lui de tout ça. Il prend en charge tout ça. Il prend ça en charge. Ne vous inquiétez pas. Le diable fait des grimaces, mais c'est pas grave. Laissez-le faire. C'est un singe. C'est le singe de Dieu. Il essaie de faire. Mais il fait des grimaces. On ressemble un peu à King Kong en ce moment, hein. Eh bien, vraiment, il est déchaîné. Mais bon. Il dit ensuite, soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugit. Il lui dit, un lion, moi j'ai un singe. Un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. C'est la même chose pour chacun. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Alors, après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est pas longtemps. Ça peut vous paraître long, mais ça va pas être long. Ça va s'arrêter. Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Voilà, moi c'est ça que je prends, c'est ça que je crois, c'est ça que je veux, c'est ça que j'intègre dans ma vie. Et nous devons faire tous pareil, quelle que soit l'épreuve que nous avons. Alors, cette fidélité pieuse, cette pratique constante qui garde la parole de Dieu révélée par Dieu lui-même, eh bien tout ça, ça met notre chair à l'épreuve, parce que notre chair dit « Non !» Je vois bien que c'est pas comme ça que ça se passe. « Tais-toi au nom de Jésus !» Camille dit « Ferme ta petite bouche pour que j'ouvre la mienne. » Parce que elle porte encore en elle, notre chair, elle porte encore en elle la trace du serpent, c'est-à-dire notre... Dans la chair, hein, notre cerveau reptilien, qui est le siège de tous nos instincts, tout ce qui est animal, tout ce qui est la violence et toutes ces choses-là. Nous avons à vaincre cela et nous avons à le vaincre en sachant que nous pouvons le vaincre. Nous pouvons le vaincre. Nous savons que nous pouvons le vaincre. Nous sommes d'ailleurs ici-bas, nous sommes encore ici-bas juste pour ça, pour vaincre cela. Pour manifester le Seigneur Jésus, pour manifester que nous sommes semblables à Christ et non pas soumis encore à ce truc que nous avons là derrière la tête, ce cerveau reptilien terrible, vivement que Dieu nous l'arrache. Ça va venir. Parce que nous avons part aux tribulations et au royaume. Il le dit, nous l'avons lu. Nous avons part aux tribulations et au royaume, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en dehors du royaume. On n'est pas en train de s'efforcer à jouer au royaume alors que nous ne sommes pas dans le royaume. Adam et Ève étaient dans le royaume, ils étaient dans le jardin d'Éden, tout était bien. Et nous, nous sommes nés en dehors de ce royaume, à l'est d'Éden. Nous sommes nés en dehors de ce royaume, hors du jardin, hors de ce paradis, mais par Jésus-Christ, nous avons retrouvé notre place dans le royaume. Il nous le dit, maintenant c'est à nous de le croire. Et quand on le croit, on le manifeste ça. Et dans ce royaume, nous ne sommes pas les sujets du grand roi Jésus, aplati devant lui du matin au soir. Bien sûr que nous sommes devant notre grand roi et dans l'adoration. Et c'est une des parties de notre vie, mais c'est seulement une des parties. Nous sommes surtout ici-bas ses collaborateurs. Il nous a donné le pouvoir d'utiliser son nom pour faire les choses. Nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses représentants. Nous signons nos actes avec son nom. Nous signons nos paroles avec son nom. Il nous a donné l'autorité de le faire. Il nous a donné les chèques et c'est à nous de les signer. De son nom, on les compte. Mettez la somme que vous voulez sur le chèque, vous signez de son nom et ça va vous être donné. Croyez-le. Quand vous dites au nom de Jésus, vous avez la procuration légalement divine. Il faut le savoir. Alors, ici-bas, ce n'est pas notre royaume n'est pas d'ici-bas, mais on est des ambassadeurs. Et quand on est dans une ambassade, eh ben, on a la protection du pays que nous représentons et toutes ces choses, non? Et le mandat que nous avons reçu, il est écrit dans Genèse 1, 26 à 27, je vous le lis, c'est le même mandat que Adam et Ève avaient reçu, et qu'ils ont perdu tout ça. Alors, 27, 26, 27, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, hein, c'est ce qu'il dit, je suis semblable. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Hein, ça veut dire que les deux dominent, c'est pas seulement l'homme, c'est pas seulement la femme non plus. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. On a le pouvoir, alors on doit le faire avec justice, avec amour. Là en ce moment, en dehors du royaume, nous sommes dans le royaume, mais en dehors du royaume, vous avez vu comme ils dominent sur les animaux, mais c'est abominable. C'est abominable. Ils rendront compte pour ça. La Bible dit que tout le sang des animaux qui est maltraité, il sera redemandé aux humains qui les ont maltraités. De même, tout le sang des humains qui auront été maltraités par les animaux sera redemandé aux animaux. Le sang est quelque chose de très important. Et la façon dont qu'ils ont d'agir aujourd'hui sur les animaux, nous montre que nous sommes vraiment arrivés à la fin des fins. Jamais l'homme a été aussi cruel envers les animaux. Il est de plus en plus démoniaque. Et ça pousse des gens un peu, fragiles sentimentalement à dire « Ah ben moi je mange plus d'animaux », comme si ça allait changer quelque chose. Dieu nous a pas interdit de manger les animaux. Il a dit « Manger tout ce qui est sur le marché, en rendant grâce pour toute chose, tout est pur pour ceux qui sont purs. » C'est évident, il ne faut pas non plus abuser de viande, mais nous avons le droit de le faire. Mais aussi, on ne peut pas être d'accord avec la façon dont les humains aujourd'hui traitent les animaux. Le mandat que nous avons reçu, c'est de dominer. Alors, dominons en son nom. Dominons sur toute chose. Ne soyez pas dominés, mais dominez. Vous avez le pouvoir. Mais toujours avec amour et avec justice. C'est pas en allant poser des bombes dans les abattoirs que vous allez agir au nom de Jésus. Hein. Dominer, et dominer avec persévérance. Il en parle, il le dit. Il y a le mot persévérance dans le premier texte que je vous ai lu dans l'Apocalypse. C'est ce que faisaient les premiers disciples dans l'ancienne Jérusalem. Je dis l'ancienne Jérusalem par rapport à la nouvelle qui descend du ciel. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, pas juste avec papa, maman, la frangine et le beau-frère. Non, dans la communion fraternelle, c'est autre chose. Ils persévéraient fidèlement dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion et la fraction du pain, et dans les prières, ils persévéraient. Jusqu'à ce que leur premier amour commence à se refroidir. Apocalypse 2, verset 4, et ça a commencé à se refroidir très rapidement. Malheureusement. Maintenant, l'Église est une Église souffrante, elle n'est plus régnante parce que la fausse Église a régné d'une façon abominable. Alors on a retiré les autorités civiles, ont retiré tout pouvoir à cette Église. Maintenant, elle ne peut agir que dans le secret. Ce qui n'est pas mieux. La vraie Église n'est plus régnante. Maintenant, vous voyez les chrétiens avec leur petite Bible sous le bras, ils vont au culte, voilà, alléluia, les choux sont gras. C'est la misère, ils vivent, c'est misérable. Parce que la vraie Église, elle est sous-alimentée, comme je vous l'enseignais vendredi passé. Parce qu'ils ne mangent pas le pain, parce qu'ils ne boivent pas le sang tous les jours. Les premiers chrétiens le faisaient. Elle ne persévère plus dans la communion fraternelle. Elle ne peut plus se nourrir de la chair et du sang de Jésus chaque jour. Elle ne peut plus. Maintenant, je vous le dis, commencez à le faire, même si vous ne vivez pas en communauté. Commencez à le faire, même si personne d'autre dans votre famille est chrétien, que vous êtes tout seul dans votre maison. Chaque soir, quand vous prenez votre repas, eh bien, prenez un peu de pain, prenez un peu de vin. Vous êtes en communion avec nous qui le faisons aussi, parce que nous ne sommes pas limités par l'espace, ni par le temps. Si vous mangez à 19h et que nous mangeons à 19h30, ça n'a aucune importance. Vous êtes quand même en communion avec nous par la foi. Vous pouvez le faire chez vous. Donc, même si vous n'êtes pas, si vous êtes seul à table, puis que vous avez votre mari ou votre femme ou vos enfants, tout ça, qui ne sont pas convertis, vous pouvez très bien bénir ça d'une façon très discrète et manger votre pain sans en avoir l'air et boire votre vin sans en avoir l'air. Mais vous, vous savez ce que vous faites et vous commencez à prendre autorité dans votre famille. Vous voyez ? Mais les chrétiens ont oublié ça. Les premiers disciples le faisaient ensemble parce qu'ils vivaient ensemble. Oh mes frères et sœurs, je ne connais pas de meilleure façon d'exprimer la vraie vie spirituelle. C'est la persévérance. Il faut persévérer. Eux, ils n'ont pas persévéré dans l'amour fraternel. On en connaît d'autres. Quand nous avons fait le premier pas en quittant les dénominations religieuses, c'était en juillet, quelque chose comme ça, août, je ne sais plus, 1977, on ne s'est pas arrêté là, on n'a pas dit, bon, on sort des églises, voilà, pouf. Non, on ne s'est pas arrêté là. Nous avons persévéré, c'est-à-dire nous avons augmenté notre connaissance de la parole de Dieu et nous nous sommes nourris. Et nous avons eu donc la révélation par la parole de Dieu de la vie communautaire. Et nous l'avons faite, cette communauté, nous l'avons créée. Les Messes, mais les Ruiz n'étaient pas là. Les Thierry et compagnie n'étaient pas là. C'est nous qui l'avons commencé. Après, eux, ils ont essayé de nous la voler. Mais nous avons persévéré, malgré cela. Nous avons persévéré. Et nous avons reçu d'autres révélations, l'une après l'autre, parce que nous avons persévéré. Il y en a qui se sont fatigués le long du chemin, mais nous avons persévéré avec l'audace de la foi. Pas à pas sur les trois chemins, il y a un petit chant qui dit ça, pas à pas sur les trois chemins. Et ça m'a coûté cher, et ça vous a coûté cher, et ça continue à nous coûter cher. C'est pourquoi ce que je vous enseigne là, ne le prenez pas à la légère. Là je vous le donne, je voudrais vous le vendre, parce que ça m'a coûté très cher. Mais je ne vais pas commencer à vendre les choses de Dieu. Mais en tout cas, on ne va pas brader la connaissance. Je vous la donne telle que je l'ai reçue. À vous maintenant, de voir, comme diraient les deux autres, là, c'est vous qui voyez. Ce n'est pas le diable qui est la cause de vos problèmes. C'est le manque de connaissance ou c'est le rejet de la connaissance qui est pire encore. La Sainte Alliance qui a été faite dans le sang de Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut aller contre. Je ne suis pas un joueur, je déteste les jeux, mais il y a une chose que je sais, dans un jeu de cartes, il y a une carte qui abat toutes les autres cartes. Est-ce que vous connaissez le nom de cette carte ? C'est le Joker. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Vous pouvez avoir des rois, des as, de pique, de tout ce que vous voulez. Si vous avez le joker, eh bien le sang de Jésus-Christ, c'est le joker. Il n'y a rien qui peut résister à ça. Rien. C'est pourquoi je vous exhorte de prendre ce pain et ce vin tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est le joker de Dieu, pardon Seigneur, j'emploie des termes terribles. Mais c'est pour marquer votre conscience, pour vous souvenir. Il n'y a rien qui peut faire quelque chose là contre le sang de Jésus. Rien. Dans l'ancienne Jérusalem, ils nous ont montré le chemin, ils nous ont montré l'exemple. Et nous lisons la Bible en cherchant Dieu, nous prions en cherchant Dieu. Et nous trouvons Dieu de plus en plus, il se révèle à nous. Il lève le voile de plus en plus, mais c'est vrai que si vous avez révélé ça il y a encore 2 ans, ça ne nous aurait servi à rien du tout, parce qu'il fallait qu'on passe par des expériences pour que cette chose-là soit reçue comme de l'eau sur une terre aride. Une terre aride, elle apprécie beaucoup plus l'eau quand elle tombe qu'une terre qui est déjà mouillée, non? Ben voilà, c'est la même chose. Il faut que nous passions par des expériences, et tout ça, c'est une tribulation! Mais c'est une bonne chose, c'est pour ça que je vous dis, c'est positif de toute façon. De toute façon, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre but, c'est quoi? Eh bien, c'est d'affirmer Dieu, c'est de manifester qui nous sommes, enfants de Dieu. Jean se trouvait exilé, nous le sommes. Bon, c'est pas l'île de Patmos ici, hein, c'est bien. Mais quand même, nous sommes exilés. Mais de cet exil, une révélation, un apocalypse jaillit. Et notre but, je le répète, c'est de manifester notre Seigneur, de manifester qu'il est en nous, témoigner de Jésus. Ce que Jésus est venu prouver en le vivant, en communauté avec ses 12, nous le vivons. Nous aimons les uns les autres, nous servons les uns les autres sans murmurer. Bah déjà dans l'équipe de Jésus, il y en avait qui étaient bizarres. Hein.
Oui, c'est qui est le plus grand,
l'être humain. Jésus, des fois, d'abord, il y a un moment, il a dit, mais j'en ai marre. Jusqu'à quand je vous supporte? Ne soyons pas de ceux qui font dire cela à Jésus. Soyons de ceux qui sont corrects. Nous avons été exilés pour être séparés des murmures constants qui faisaient vibrer l'ambiance, l'atmosphère ambiante dans notre communauté. On a été exilés pour ça, pour qu'on soit en paix. Et on est en paix. Amen. Nous avons été rétablis en tant que roi, en tant que prêtre, et la nature entière voit la manifestation de ce que nous sommes, remplis du sang de Jésus. Rempli de sa vie, un corps vivant. Nous avons la vraie nourriture. Et nous nous en nourrissons chaque jour ensemble. Alors évidemment, la communauté est un petit peu divisée, nous sommes combien, 5-6 maisons maintenant. Mais voilà, nous nous réunissons là tout à l'heure, on va prendre la Sainte-Seine tous ensemble, mais autrement le soir, c'est quand même des communautés, c'est pas que des familles qui sont ensemble. Et le jour vient où ça y est, nous allons être de nouveau tous réunis ensemble. Je vous le dis aujourd'hui, alléluia, persévérons, persévérons, persévérons. Ça va déboucher sur un miracle, parce que nous sommes en marche en direction de l'aube divine. Amen. Jésus, je te prie de donner de la force à mes frères et sœurs au travers de ce message, de leur donner bon courage et qu'ils continuent à se nourrir de ton sang. Merci Jésus, sois béni mon Dieu. Fortifie chacun et chacune de ceux qui écoutent aussi sur Internet. Je sais qu'il y en a qui viennent écouter et qui ne m'aiment pas, mais bénis-les quand même pour qu'ils arrivent à comprendre où ils en sont et qu'ils se repentent. Merci Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.